correspondait. Hein.
Ouais.
Correspondait, oui. Donc, il y a effectivement l'islam. Quelqu'un dit, il y a des
autres
avec
l'islam. Il y a une autre
version. C'est président de la Freie Universität.
Il y a un professeur qui est seul. Une salle de conférence à l'université. Ah, à la fac de droit, non? Oui, oui. Et Madame Sorbetti, qui avait réussi au professeur de médecine aussi?
Non.
Et qui a un doctorat
aussi. Doyen de droit, oui. Mais pareil, la maison, on habite, elle appartenait à la famille
Ratzinger.
Oui, il habitait que Saint-Thomas ou que Saint-Nicolas, il habitait. Une vieille famille protestante de Strasbourg.
Et les autres professeurs qui étaient...
Pardon ?
Les autres professeurs.
Il y en avait quatre, hein, je suis honnête, mais je n'ai plus les noms, peut-être Kiner, enfin, je ne sais plus exactement. Je ne sais pas en tête les noms des autres. Hein. Mais je sais qu'il y en avait quatre.
Voilà. Oh. Alors après, donc, après ce radio-club, il y a eu donc cette création en 1925 d'une société d'études pour la création d'un centre de radiodiffusion. Et après moult péripéties administratives, politiques, confessionnelles et autres, typiquement alsaciennes, on en sortira en juin donc 1930 l'association Radio Strasbourg PTT, et au sein de laquelle surgirent des tensions alors entre fonctionnaires PTT et défenseurs des exigences d'ordre artistique. Divergence aussi du fait que le conseil de direction comprenait, à côté des représentants élus dans nos deux départements, des membres de droit des ministères de l'Intérieur et des PTT, ainsi que des services d'Alsace-Lorraine, il existait à l'époque un service d'Alsace-Lorraine, du ministère du Travail. Donc de cette façon, le gouvernement pouvait contrôler aisément la teneur des programmes des différentes stations régionales. Et l'association souhaitait d'ailleurs, toujours d'après Paul Charbon, un maximum d'émissions culturelles d'expression plutôt régionaliste et à tendance pacifiste. Les Parisiens voulaient faire de Strasbourg un poste de propagande à l'usage des populations locales qu'il fallait réhabituer à la présence et à la langue française, un poste aussi à l'usage des Allemands auxquels il fallait apporter la bonne parole. Fin de citation. Eh bien, cette notion finalement de bonne parole, voire de propagande, ne devait finalement prendre une forme nouvelle qu'après la prise de pouvoir par Hitler en 1933, journalistes et chroniqueurs ayant entrepris à partir de ce moment-là la contre-propagande à celle des services de Goebbels, pour qui Radio Strasbourg était devenu le Lügensender. Der Lügensender Radio Strasbourg, la radio qui ne sait que mentir. Et d'ailleurs, Radio Strasbourg, et ce grâce à un correspondant clandestin à Berlin, il était journaliste, je crois, avait annoncé en tout premier, avant toutes les autres radios et les autres médias, que le Reichstag avait été incendié par les nazis eux-mêmes, non, et non pas par les communistes. Et ça, évidemment, ça, Goebbels ne l'a jamais pardonné à Radio Strasbourg. Et d'ailleurs là, j'ouvre une parenthèse personnelle, à tel point que ma belle-mère, ma mère d'Irène, avait été speakerine à Radio Strasbourg de 1933 à 1935 pour les émissions allemandes, parce qu'elle était, originaire de Sarrebruck. Et en 1935, le ministre Mandel avait renvoyé les femmes speakerines dans leur foyer, parce qu'il y avait, du chômage et il fallait donc placer les hommes donc dans ces postes. Et elle a été arrêtée en 1940 par la Gestapo et a failli, parce qu'elle avait travaillé au Lügensender en tant qu'allemand d'origine, puisqu'elle était sarroise. Et c'est grâce à un ami de son de son frère qui était juge à Sarrebruck, et qu'il a, il l'a fait, elle aurait été internée, mais il l'a fait expulser, et elle est partie, il a pu repartir donc en, dans le sud-ouest où elle a retrouvé le restant de la famille. Alors vous voyez, le Lügensend avait, c'était vraiment, c'était vraiment la, la, la cible. Donc propagande et contre-propagande politique, voilà qui nous éloigne au fond de la vision d'Einstein, c'est certain, également de celle de l'Européen René Chiquelet, qui écrivait la même année 1930, lui, le citoyen français, Und deutscher Distrikt, il écrivait à ce moment-là, Der Straßburger Sender kann für eine wahre deutsch-französische Verständigung unschätzbare Dienste leisten, wenn sein Programm tatsächlich das ist, was es nach Lage und Bedeutung des Senders sein sollte. Dies ist nur möglich, wenn es über genügende Geldmittel verfügt, die ihm gestatten, europäische Wirkung zu erlangen.
Tout le monde a compris où est-ce que... Alors, faut-il que je traduise
Non.
D'accord.
Voilà, ça, c'était donc la, la déclaration de René Chiquelet. Il faut quand même dire, et d'ailleurs en, en évoquant les ressources financières, Chiquelet avait touché au fond le nerf de la guerre, puisque nous disposions toujours en France beaucoup moins de moyens financiers que dans les autres pays, du moins en ce qui concerne les stations régionales. Et il s'agissait cette fois de, vraiment de la guerre des ondes, la première de l'histoire d'ailleurs, et qui finalement, comme vous savez, s'est généralisée à partir de 1939. Alors il faut dire que d'un autre côté, que par la radio, au fond, avait été mise en place une réelle communauté européenne des ondes, du fait que d'un pays à l'autre s'opéraient régulièrement des retransmissions, surtout de concerts, et que de toute façon, tous les postes disposant d'émetteurs à ondes moyennes ou à ondes longues de grande portée, l'étude des autres, l'écoute plutôt des autres, était devenue monnaie courante, était devenue très normale. Ainsi, en ce qui concerne l'émetteur de Brumath, qui avait quelques 140 millions d'auditeurs à sa portée, sans compter que la circonscription de Radio Strasbourg couvrait à l'époque, à part le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, 8 autres départements de l'Est. Les lieux de retransmission allant de Pontarlier à Mézières, en passant par Belfort, Épinal, Metz, Nancy, Toul, Verdun et Reims. Parce qu'à l'époque, Nancy, par exemple, n'avait pas encore de poste de radio. Et pour ces retransmissions, célébrations officielles, religieuses, etc., événements de tous ordres et concerts, les équipes techniques devaient transporter par train, par taxi, d'innombrables kilos de matériel technique, encore fort lourd à l'époque, parce que la miniaturisation, évidemment, n'existait pas encore. Mais il faudra aussi s'intéresser maintenant à la mise en place des programmes définitifs. Donc après le concert inaugural, donc du 11 novembre 1930. Au fil dans des locaux plutôt exigus, dans une aile du commissariat central de police rue de la Nuée Bleue, c'est là qu'il y avait les premiers locaux, et auxquels sont d'ailleurs venus s'ajouter assez rapidement d'autres, une grande salle de concert, rue de la Nuée Bleue également, qui faisait partie de l'hôtel de la ville de Paris. Et au début de la rue de la Nuée Bleue, c'est là qu'il y a l'entrée vers cette salle. Je ne sais pas si la salle existe toujours. Elle était toujours exploitée par notre orchestre après-guerre jusqu'à la, jusqu'à la construction de la maison de la radio, place de Bordeaux, l'orchestre était toujours rue de la Nuée Bleue, dans cette salle de l'hôtel de la ville de Paris. Et il faut dire quand même que tout le monde s'est accordé de ces conditions, les anciens nous en parlaient après-guerre, de ces conditions, c'est bien speaker, reporter, journaliste, metteur en onde, discothécaire, etc. Les comédiens, même que les musiciens, s'accordaient de cette exiguïté parce que ils avaient quand même le sentiment de vraiment de, d'être des pionniers de quelque chose. La radio, c'était quelque chose de nouveau. Et leur, je citais l'orchestre, et bien au départ, il y avait l'orchestre ne comportait que 14 musiciens. Alors une fois rue de la Nuée Bleue, il s'est agrandi un peu plus, et puis je crois, il a terminé avec 40 musiciens en 1939, et d'ailleurs sous la direction à l'époque du jeune Ernest Bourg, qui a été qui était devenu le directeur titulaire. Et bien entendu tous les concerts donnés sur place, comme se transmis régulièrement d'autres stations, se faisaient en direct, les stations ne disposant alors pas de moyens d'enregistrement. Et la technique de la gravure sur disque est intervenue bien plus tard, vers la fin de la décennie, et puis durant la guerre. Et après, il y a eu donc les gravures sur disque souple, ensuite le magnétophone et les voitures de reportage. Mais toutes ces techniques, et puis il faut dire aussi que tout le monde s'est accommodé de ses conditions de travail, parce qu'ils faisaient leur travail avec passion, et même malgré certaines petites querelles d'ordre corporatiste, parce qu'il y avait d'une part les techniciens et les administratifs qui appartenaient à l'administration des PTT, et tous les autres étaient sous la direction, donc au fond, de l'association Radio Strasbourg, qui a été remplacée ensuite, en 1935, par un conseil de gérance. Et il y a eu des élections, et c'est l'abbé Alphonse Hoare qui a été le premier président donc de ce conseil de gérance, et il avait battu de quelques voix, j'allais dire de quelques soutanes, le pasteur Fritz Münch, qui lui aussi était candidat pour ce poste. Il y avait donc toujours eu un peu une rivalité entre l'abbé Hoare et Fritz Münch, donc là, chacun ayant sa chorale qui était l'une aussi prestigieuse que l'autre. Et en plus, bien entendu, les gens, ils étaient conscients de l'attente des auditeurs, qui étaient de plus en plus nombreux, et parce que la radio, à ce moment-là, on ne s'en rend plus compte aujourd'hui, parce que c'est qu'elle a ouvert de nouveaux horizons, finalement. Ouvert de nouveaux horizons, la TSF, comme on disait. Elle a constitué la première véritable ouverture sur le monde, proche ou lointain, une ouverture vers des découvertes plus tangibles, peut-être, puisque matérialisée par des voix, par des sons, par des couleurs sonores, et une ouverture nouvelle dans tous les domaines, d'ailleurs, sur un monde réel, présent, jusque-là inconnu ou mal connu, ou alors connu seul par des écrits ou quelques rares documents filmés. Un monde que ne perturbait donc pas encore un flot ininterrompu et trop impétueux d'images plus ou moins bien contrôlées. Alors, or, la radio, il faut dire, la radio, finalement, allait elle-même devenir créatrice d'images, tout simplement en les suggérant à l'auditeur. Parce qu'en écoutant un reportage, une pièce de théâtre, une évocation radiophonique, un concert, un opéra, ou toute autre manifestation, l'auditeur réussit à visualiser les gens, les objets, les lieux. Et en laissant opérer son imagination à l'écoute d'un Hörspiel, une pièce radiophonique, eh bien, il voyait surgir devant lui les personnages tels qu'ils pouvaient être, suggérés par la description que faisait un récitant, parce qu'il y avait souvent un récitant pour un Hörspiel qui dressait le décor. Et puis d'ailleurs, très souvent, les premiers temps, les gens se réunissaient, après pour la télé ça a été pareil dans les années 50, les gens se réunissaient souvent par famille ou alors avec les voisins, parce que tout le monde ne possédait pas un poste de radio, et les gens se groupaient, et puis alors là c'était une écoute religieuse d'un Hörspiel ou alors d'un concert à la radio. Alors que, évidemment, surtout à la campagne où les gens n'avaient pas de possibilités d'aller au concert ou d'aller au théâtre. Et d'ailleurs, il y a aussi une chose à dire, c'est que la propagation des ondes était assez capricieuse. Par exemple, Radio Strasbourg était très mal captée. Paraît-il dans la vallée de Tarn. Dans la vallée de Tarn, alors que la vallée à côté, la vallée de Masbourg, où à l'époque j'habitais avec mes parents, eh bien à Masbourg, on captait très bien Radio Strasbourg et tous les autres. Parce que si vous voulez, j'appartiens un peu aujourd'hui à les enfants de l'Internet, il y avait les enfants de la télé, et notre génération, nous étions les enfants de la radio, finalement. Parce que moi j'avais 4 ans quand même. Mes parents ont eu la première radio, ça a été une révélation également pour les enfants à l'époque, surtout qu'il y avait pas mal d'émissions pour les enfants. On avait les Kinderstunden de Radio Bâle, ou alors de Stuttgart, et puis les matinées enfantines également de Strasbourg. Alors on était servis sur ce plan-là. D'ailleurs, ces émissions enfantines ont continué à être diffusé à Strasbourg jusque dans les années 60, voilà. Et il y avait également une chose, c'est que les gens écrivaient énormément, et la radio recevait énormément de lettres d'auditeurs très lointains, souvent. Entre autres, de Nouvelle-Zélande, parce que c'est étonnant, mais aux antipodes, en Nouvelle-Zélande, il y avait des Alsaciens qui étaient établis là-bas, qui écoutaient Radio Strasbourg, PTT. Et tous ces gens-là écrivaient. Et à ce propos, justement, on entendait Bernard Strasbourg dans le Midi, en Algérie, en Angleterre. Je voudrais vous citer un texte de Gustav Stoskopf, donc artiste, peintre, poète et journaliste, conteur, auteur dramatique, et qui avait été cofondateur du musée alsacien, du théâtre alsacien, et qui avait fait partie dès le départ de l'association Radio Strasbourg, et qui avait été immédiatement pressenti comme responsable des émissions alsaciennes, donc des émissions en dialecte. Et alors pour la centième émission, c'était en 1934, parce qu'il y avait finalement les émissions alsaciennes n'étaient pas celles de dimanche soir, mais pas chaque semaine, c'était toutes les deux semaines, je crois. Donc la centième a eu lieu en 1934. Et alors là, il a lu à ce moment-là un texte pour Zum 100. Elsässische Uhr. Je vous donne juste quelques petits extraits. In den 100 elsässischen Uhren ist von meinen Mitarbeitern und mir der Versuch gemacht worden, ein genaues Spielbild von unserem Geistesleben, von Kunst und Literatur im Elsass, von unserer elsässischen Eierart und Traditionen zu kennen. Unsere Dichter und Komponisten sind in ihrer großen Mehrheit zu Wort gekommen, Polsin Ernsti, Pollustigiten Enklavebor, und machen unsere Schönheime verherrlicht, unsere alte heimische Volkslieder, die uns von Generation zu Generation übermittelt worden sind, haben wir in der Ädernis erklingen lassen. Es ist ganz, ein ganz eigenes Gefühl, wenn man bedenkt, dass man durch die wunderbare Erfindung vom Radio mit seinen mysteriösen Wellen in den Lauf versetzt wäre, mit lieben Landsli, mit Fremden und Verwandten, die Hunderte oder gar Tausende von Kilometern von uns entfernt sind, in Verbindung zu treten. Im Klang von ihrer Mütterspruch wird ihre Lebheimat, wie weit von ist, vor sie lebendig wäre, all die lebe Erinnerungen wären binnen wach, ihr Heimatsort, ihr älteres Haus und alles, was mir lebt und wert ist, steht im Geist vorne wieder auf. Voilà, donc un extrait de cette déclaration qu'avait fait Gustave Stoskopf au micro pour la centième émission, l'émission alsacienne. Et... Und natürlich in deiner Sendung hat er dann auch nicht nur, also Darsteller sind alles Lied vom Elsässischen Theater gesehen. Und er hat natürlich in viele Theaterstücke adaptiert worden, également des adaptations pour la radio, d'un Theaterstück, das immer ein bisschen adaptiert wäre, wenn es jetzt im Saal aufgenommen wird, im Radio aufgenommen wird. Il faut faire une adaptation souvent avec les récitants, etc. Et puis, on a fait viele poétische Sendungen gemacht. Poétische Sendungen mit Dichtungen vom Zumstein, von Nathan Katz, vom René Schickele, Victor Schmidt, natürlich von der Reda Modis und so weiter, und vom Henri Adrien, vom Maurice Bolloré und viele andere. Und et d'ailleurs cette émission avait un grand succès, et comme dit, les gens écrivaient, dit en fil geschrieben, leur norm créé, nicht nur für Wunsch, Leute, die demandiert, jetzt zählen wir uns viel Geld. Und, aber auch die haben geschrieben für ihre Meinung zu sagen über die und die Sendung, über den und den Darsteller und so weiter. Et il y a eu Edouard Ludeck, wo einer von den ersten ist gesehen, vom le premier speaker reporter en 1936, on peut donc créer nos airs responsables du programme Oranisch. Je sais pas si elle nous a dit ce qu'il a écrit, en personne, donc il a surtout un mot gebrüchet, il n'a pas richtig gesehen, ou tout ça, ah oui. Et il a même eu des lettres d'amour de certaines auditrices. qui était tombée amoureuse de sa voix.